jamais vu une femme qui se bat.
Tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. Ce principe interdit toute discrimination de salaire fondée sur le sexe. Tous les employeurs et tous les salariés sont concernés, qu'ils relèvent ou non du Code du travail. Alors l'histoire des droits des femmes au travail ne date pas d'hier. Le travail des femmes ne date pas d'hier, mais si nos mères, nos grands-mères, nos arrière-grands-mères ont toujours connu le labeur, quelles étaient leurs conditions de travail par rapport aux hommes? Que sait-on du combat de nos aînés pour obtenir des droits? Et où en est-on aujourd'hui? Depuis l'instauration d'une journée internationale consacrée aux droits des femmes par l'ONU en 1977, le 8 mars est un rendez-vous annuel important pour faire le bilan des progrès et des régressions de la condition des femmes dans chaque pays. Alors nous allons parler des droits des femmes au travail avec Chantal Grain et Marlène Noig de l'unité locale de Figeac et de l'unité locale de Capdenac de la CGT. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bonjour.
Alors ce 8 mars, journée internationale des droits des femmes, il y a eu deux rassemblements sur Figeac et Capdenac.
C'est ça, voilà. Dans l'actualité revendicative contre la réforme des retraites en intersyndicale, donc le 8 mars était dans la continuité du 7, qui a été quand même très puissant. Notamment ici sur Figeac, on a eu 4000 manifestants dans la rue, plus un blocage de rond-point le matin. Donc ça s'est très très bien déroulé, un temps très fort. Donc le 8 mars, comme il y a pas mal de secteurs professionnels en reconductible, notamment les cheminots de Capdenac qui reconduisent encore la grève actuellement, le 8 mars était l'occasion justement de continuer la lutte contre la réforme des retraites et de faire aussi le parallèle avec les inégalités salariales, les inégalités au niveau de la réforme des retraites par rapport aux femmes justement, et de mettre en exergue un petit peu tout ça et de faire le lien avec l'actualité.
Alors je pense que ces mouvements ont été suivis quand même, et pas que par des femmes, hein.
Oui, effectivement, ce qui a été intéressant, c'est que on voit que le sujet des inégalités, des traitements, que ce soit l'évolution de carrière ou les salaires des hommes par rapport aux femmes, ça sensibilise aussi les hommes. Et on était contente de voir qu'il y avait quand même des hommes au lendemain de cette grande manifestation du 7. On a des hommes qui sont venus, et pas que des... pas que des syndiqués, hein, c'est ce qui est intéressant aussi, hein, parce que nous, on mobilise toujours un panel de nos propres syndiqués, mais pas que. Et c'est ce qui était intéressant, on a vu des hommes pouvoir prendre la parole aussi, s'ils le souhaitaient, sur le sujet, et en tout cas, qui viennent régulièrement dans les manifs que nous... De toute façon, on marque toujours on marque toujours cette journée-là, nous, au niveau de la CGT, parce que ça nous pour nous, c'est un combat qu'il ne faut pas lâcher, parce qu'on voit bien qu'il y a des choses qui sont faites, mais que dans la réalité, il est des fois un petit peu plus difficile de les mettre en pratique. C'est pas qu'il n'y a pas la volonté, des fois peut-être, mais que bon, il faut rien lâcher là-dessus. Hein, on le voit dans certains pays où finalement le droit des femmes recule. Et donc, il faut rien lâcher. Donc nous, la CGT, chaque année, on marque le coup, tant bien que mal. Et là, malgré quand même une sollicitation toutes les semaines depuis le mois de janvier, les personnes, et malgré du coup la veille, la journée du 7, il était indispensable que le 8, il y ait ce lien qui soit fait entre la journée des droits des femmes et effectivement l'impact de cette réforme des retraites qui va effectivement encore plus impacter et défavoriser les femmes. Voilà.
Alors, dans quelle mesure cette proposition de réforme des retraites va impacter encore plus les femmes ?
Alors, au niveau du temps de travail, il faut savoir que 82% des salariés à temps partiel sont des femmes. Alors, le temps partiel est choisi ou subi, mais c'est bien souvent les femmes qui hachent involontairement leur carrière pour s'occuper des besoins de leurs proches ou parce que le métier qui est imposé à temps partiel est aussi à une grande amplitude horaire. Donc, on voit que les aidants sont souvent des aidantes. Quand une famille avec des enfants handicapés ou des proches qui ont des gros soucis de santé, en général, c'est les femmes qui mettent leur carrière entre parenthèses pour s'occuper d'eux. Donc, au niveau du temps de travail, ça génère une carrière hachée. Et ensuite, on a aussi des salaires qui sont inférieurs. Il y a 25% d'écart salarial moyen entre les hommes et les femmes. Donc voilà, c'est ça qui va. C'est pour ça que la réforme des retraites, même la retraite actuellement d'ailleurs, impacte les femmes. Il faut savoir que les femmes actuellement, en moyenne, ont 40% de pension de retraite en moins pour les femmes par rapport aux hommes.
Ouais, ce qui est énorme. Alors pourtant, j'ai envie de dire, de nombreuses réformes ont été mises en place durant ces dernières décennies. J'en ai une là sous les yeux, c'est la loi Roudy qui date de 1983 contre la discrimination à l'embauche et sur les salaires. La ministre des Droits de la Femme à l'époque, qui était en poste de 1981 à 1985, Yvette Roudy, a fait voter une loi pour mettre fin aux inégalités hommes-femmes contre les discriminations en matière de formation et d'embauche. Force est de constater que ce n'est pas encore tout à fait mis en application.
Mais c'est un peu comme tout ce qui se décide et qui part peut-être d'une bonne intention. Qu'est-ce qu'on met comme moyen et qu'est-ce qu'on fait comme observatoire derrière pour être sûr que ça marche ou qu'il faut améliorer ou rectifier. Quand il y a eu le congé parental qui a été mis en place, qui était normalement pour le deuxième, à partir du deuxième enfant, dans ses débuts, et jusqu'aux 3 ans de l'enfant. Donc là, le parent, à l'époque principalement quand même les femmes, je suis sûre que ça a été ouvert aux hommes immédiatement, avait la possibilité de prendre jusqu'à maximum 3 ans de congé parental, partiel ou total d'ailleurs, et c'est comme l'a dit Marlène, souvent c'était les femmes puisque leur salaire était inférieur et que les tâches de garderie d'enfants avec tout ce que ça comprend étaient souvent quand même principalement pratiquées par les femmes, on va dire. Je dirais pas réservées, parce que justement ce serait l'inverse qui devrait être. Mais donc ce congé parental a quand même permis effectivement que les femmes puissent suspendre pendant un temps leur travail quand elles ne le perdaient pas, mais on va dire qu'elles avaient la possibilité réglementairement de le faire. Il y avait une proposition pour que ce congé puisse aller jusqu'aux 6 ans de l'enfant, puisque l'école est obligatoire à partir de 6 ans. Il a été envisagé, mais il y a eu tellement de personnes qui voulaient aller vers cette possibilité-là, preuve qu'il y avait un besoin là-dessus, que les moyens n'avaient pas été mis et que ça a été abandonné. Voilà. Alors après, on pouvait prendre un congé. Alors je pense que quand ça a été envisagé d'être élargi jusqu'aux 6 ans de l'enfant, je pense qu'à ce moment-là, les hommes avaient la possibilité de le faire, si je me rappelle, peut-être. Mais en tout cas, on voit bien que quelque chose qui aurait été nécessaire, puisque tout le monde avait allé vers ce sens-là et que les demandes avaient été faites en ce sens. Et le problème, c'est que les moyens n'ont pas été mis. Voilà. Et ça aurait été bien, certainement, répondre à un besoin qu'avaient les mères, voire les pères, de pouvoir suspendre un temps leur travail pour pouvoir s'occuper de leur enfant et intégrer que l'homme, petit à petit, puisse aussi s'épanouir à élever son enfant et n'ait pas la crainte aussi de perdre le salaire principal des fois, puisque c'était des fois le salaire le plus haut, quoi. Voilà. Donc il faut mettre les moyens. Et ça, c'est pas gagné, quoi.
Marlène ?
Oui. A été mis en place, c'est le gouvernement Macron, il me semble, après 2017, l'index inégalité dans les entreprises. Pour faire le point un petit peu sur les entreprises qui mettent en place l'égalité professionnelle au niveau du salaire entre les femmes et les hommes, etc. Donc nous, à la CGT, on a quelques statistiques. 59% des entreprises de plus de 50 salariés ne respectent pas et n'ont pas mis d'accord ni de plan d'action sur l'égalité professionnelle. Cet index inégalité, au final, il sert à rien. Les entreprises sont nombreuses, justement, donc je disais 50%, et il y a 0,2% d'entre elles qui ont été sanctionnées seulement. Donc, on voit que c'est un effet de communication, mais qui n'a aucun effet. Finalement, les patrons ne sont pas mis à contribution, ne sont pas punis, etc. Donc, ils continuent à faire comme avant.
La loi n'est pas respectée, mais on ne pénalise pas...
C'est ça. On ne pénalise pas les entreprises qui ne respectent pas l'égalité salariale.
Donc il y a encore un gros travail à faire. Comment faire respecter cette loi, justement ? Est-ce que s'il n'y a pas un changement de mentalité aussi à faire, à
c'est
avoir
quand même,
quoi.
C'est quand même les entreprises à s'emparer de ça. Les représentants du personnel le peuvent aussi. Mais elles ne vont pas non plus se battre si la direction ne coopère pas. Si la direction met des freins, c'est qu'en quelque part, elle n'a pas la volonté d'intégrer ces situations-là, c'est-à-dire de rendre l'égalité homme-femme. Donc, contraindre, oui, par ça, mais en quelque part, comme il est dit, c'est les mentalités qui doivent changer. C'est vrai qu'on vient de loin, donc il faut effectivement que les gens intègrent cette notion-là d'égalité entre les hommes et les femmes, quoi.
Oui.
Alors, dans la fonction publique, effectivement, la grille salariale est la même pour les femmes et pour les hommes. Mais après, là où la différence joue, c'est par rapport aux primes. C'est-à-dire, il y a plus d'hommes qui prennent des primes que des femmes. Alors, ça s'explique comment ? Ça s'explique peut-être que les hommes font plus d'heures supplémentaires, parce que les femmes, bien souvent, c'est elles, comme on disait tout à l'heure, qui vont s'occuper de la famille, de l'organisation, etc. Donc, les hommes, eux, vont prendre des heures supplémentaires, vont avoir, en fait, des évolutions de carrière plus rapides, que les femmes. Donc ça se vérifie aussi dans la fonction publique, malgré que dans la fonction publique, les grilles de salaire soient égales, bien sûr. Mais on a un écart de salaire plus de 19% environ entre les femmes et les hommes, aussi dans la fonction publique, à cause de ça, quoi.
Prends garde sous mon sang là.
Il y a aussi, on parlait tout à l'heure de métiers, mais il y a des métiers qui sont plus spécifiquement, en tout cas, plus occupés par les femmes que par les hommes. Et souvent, ce sont des métiers qui sont très mal rémunérés.
Tout à fait.
Oui.
Les aides à domicile, par exemple, à Cap-de-Nac, on a beaucoup de salariés aides à domicile qui nous ont contactés, notamment après le confinement, après la crise sanitaire, où on a commencé justement à parler de ces métiers-là, ces métiers invisibles qui ont fait tourner la France malgré le confinement et les gens qui restaient à la maison. Il a bien fallu quand même que nos personnes âgées soient prises en charge par les soignants, par les aides à domicile. Il a bien fallu que les gens aussi, tout un chacun, puissent aller faire les courses, acheter à manger, etc. Donc les caissières, les aides à domicile, les soignants sont majoritairement des métiers féminins, mal rémunérés et qui ont été mis justement en avant par la crise sanitaire. Cependant, il n'y a eu aucune évolution sur leur salaire, il n'y a eu aucune évolution sur leurs conditions de travail. On les a applaudis, bon voilà, mais ça a servi, il n'y a pas eu d'effet. Il n'y a pas eu d'effet d'après ce qu'avait annoncé Macron, qu'il fallait les prendre en considération, etc. Il n'y a eu aucun effet à ce niveau-là.
Oui, et on est en plus sur des métiers avec des amplitudes horaires, avec du travail de week-end, avec des horaires un peu atypiques. Et donc pour la garde des enfants, pour le suivi scolaire, pour amener aux activités sportives du week-end, ce sont des familles qui sont pénalisées. Il suffit que ce soit des familles monoparentales. Voilà, ce sont des personnes qui, comme a dit Marlène, ont fait tourner, n'ont pas une grosse possibilité d'évolution de carrière, ont difficilement la possibilité d'intégrer des formations pour éventuellement évoluer dans leur métier. Alors, ils sont devenus un peu moins invisibles, mais espérons qu'ils ne retournent pas dans l'invisible.
Oui.
Voilà, c'est ce qu'il faut, c'est pour ça que là on en parle, parce que bon, on y est confronté sur nos territoires ruraux, puisqu'on a beaucoup de personnes âgées, de personnes en maintien à domicile, et c'est une bonne chose, mais là aussi il faut y mettre les moyens. On voit bien la perte d'attractivité de nos métiers. Et la perte d'attractivité, ça part plus que par une reconnaissance. La reconnaissance, c'est aussi le salaire qui va avec. Voilà. Et pouvoir vivre de son métier, pouvoir éventuellement, sur un moment de sa vie, pouvoir prendre un temps partiel si on fait le choix aussi. Là, les temps partiels, ils sont subis. Voilà. Non, ça peut plus continuer que ces personnes-là qui sont très volontaires, qui sont dans les métiers du prendre soin. En plus, hein, c'est des personnes qui donnent de tout leur cœur et de tout leur corps des fois, parce que c'est des métiers physiquement difficiles qui reviennent sur quand il y a des absences, qui n'hésitent pas à revenir, quoi, parce que derrière il y a de l'humain, hein, et il faut absolument qu'elles soient prises en considération. Et on n'est pas dans une prise en considération pour l'instant, d'accord, comme elle dit Marlène. On les a applaudis, on nous a applaudis, parfait, tous les gens qui ont continué à lutter. Pour autant, on voit que pour l'instant, la problématique de la reconnaissance par les salaires, entre autres, et par les conditions de travail aussi, on voit bien, hein, continuent à prendre certaines de leurs véhicules. On ne leur attribue pas spécialement d'équipement au niveau des véhicules, par exemple, ben, c'est pas grand-chose, mais équiper un véhicule avec des pneus adaptés à la météo, au climat de nos territoires, mais c'est important, parce qu'être en sécurité sur les trajets qu'on fait d'un bénéficiaire à un autre, c'est important. Voilà. Et tout ça, ça fait, enfin, il y a plein de propositions qu'on peut faire au travers de ce que elles font remonter, bien entendu, nous, notre syndicat, et on voudrait bien qu'elles soient entendues là-dessus, parce que ça aussi, ça fait partie de la reconnaissance.
Alors, moi, j'ai envie aussi de vous questionner sur le harcèlement sexuel qui a été ajouté au Code du travail en 92. À votre avis, le pouvoir des hommes s'exerce encore aujourd'hui dans nos métiers, dans...
Mais, alors, je ne sais pas. Enfin, moi, je suis sur la fonction publique hospitalière. Je ne sais pas si le pouvoir des hommes s'exerce dans la mesure où on est une majorité de femmes et que du coup, ça peut balancer le rapport de force du nombre.
Oui.
Après, derrière, il y a des fois la qualité. Parce qu'effectivement, il ne suffit pas qu'il y ait une majorité d'hommes pour qu'on puisse subir, dans un sens comme dans un autre, des fois aussi, de cette pression-là liée à des comportements sexistes. Mais... Je ne sais pas, on n'a pas de... Enfin, moi, je ne sais pas, ça m'intéresserait quand même qu'il puisse y avoir, justement, sur nos établissements, une petite étude ou la possibilité de s'exprimer là-dessus. Les métiers les mieux rémunérés ou les mieux payés sont quand même assez souvent occupés par des hommes, mais je suis... Alors, ce serait peut-être plus un frein lié justement à la femme qui n'a pas une évolution de carrière comme elle le souhaite, parce qu'il y a les enfants, tout ça, voilà, l'accès aux études aussi, hein, y a quand même tout ça. Mais je ne sais pas ce qui fait ça, mais justement, c'est un peu dommage qu'on ne puisse pas avoir des éléments là-dessus et qu'il n'y ait pas des études, des enquêtes qui puissent se faire, ou même tout simplement, hein, enquêter en anonymat pour pouvoir discuter de cette chose. Ben, je ne sais pas, ça pourrait se faire dans nos établissements, d'avoir un moment d'échange comme ça pour voir ce qui va bien, y compris sur ces questions-là de voir si elles se sentent intégrées dans certaines corporations quand même. on sent bien. Est-ce que c'est lié au fait que ce soit occupé par des hommes? On sent bien qu'il y a une certaine... comment dire? Il faut peser ses mots parce que...
Un certain patriarcal?
Oui, un petit peu, voilà. Mmh. Et puis, on va dire que l'autorité s'applique plutôt des fois par rapport au niveau de connaissances et au métier. Voilà, de métier par rapport à un autre, on a plus ce côté un peu servitude quelquefois. Après, certains ont le plaisir à servir, hein. Mais voilà, il faut y mettre les limites qui s'imposent, c'est ça aussi.
Tout à voilà. fait. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on est deux secrétaires duel féminines ici. Et c'est vrai qu'on encourage les femmes qui vivent du harcèlement sexuel en entreprise à venir nous voir pour justement se défendre par rapport à ça. Bon, moi, je travaille dans la fonction publique éducation nationale. On est beaucoup de femmes et je suis dirigée par une femme aussi. Donc, le harcèlement sexuel, je ne le vis pas. Je ne le vis pas au quotidien. Mais on invite fortement les femmes qui le vivent, si elles le vivent justement, à venir nous contacter pour se défendre et trouver les conseils.
Oui, on peut dire, c'est vrai qu'elle a raison, Marlène, et on se retrouve là, en l'ayant choisi, hein, bien sûr, à être deux secrétaires femmes d'union locale. On est entouré parce qu'on est des équipes, hein, on est des équipes et on est solide parce que on a beaucoup d'hommes aussi, hein, qui composent ces équipes là. On les remercie parce que franchement, ils nous aident bien et ils en tiennent compte, hein, c'est très respectueux au niveau des uns et des autres. Il y a pas de différence, hein, entre les hommes et les femmes là-dessus. Voilà, on peut pas dire que... Mais c'est vrai qu'on invite... Mais le rapport de force entre femmes, il existe. Hein.
Oui, aussi. Oui.
Et moi, je trouve que dans nos métiers, enfin, notamment dans le mien, le rapport de force, il s'exerce peut-être même plus entre femmes. Entre femmes, je sais pas, c'est une espèce de course au pouvoir, de course au meilleur profil. Moi, je suis un peu stupéfaite. Moi, j'ai pas honte de dire que mon travail me fatigue, que mon travail puise psychologiquement, que mon métier, je peux plus l'exercer comme je l'ai appris et comme je le souhaitais en devenant fonctionnaire, et qu'il me fatigue, qu'il a été complètement déshumanisé, complètement. Et moi, j'ai pas peur de le dire. Et je vois que mes collègues qui partent à la retraite, elles retrouvent une certaine sérénité après parce qu'elles ont passé un cap, alors qu'avant, on était malheureux de quitter son travail, quoi. Et on fêtait le fait de... Et puis on continuait à se voir et tout ça. Maintenant, je sens plus d'humanitude dans les personnes qui travaillent. Et, alors, c'est que mon regard et ça n'engage que moi. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes... Alors, je ne sais pas au niveau des hommes, mais je pense que sur beaucoup de femmes, il y a beaucoup de mal-être au travail. Et je pense qu'il y a beaucoup de frustration de ne pas pouvoir, en tant que femme, justement, faire un métier qu'on choisit quand même un petit peu. Et ça, on n'en tient pas compte, voilà. Mmh. Et dans les métiers du prendre soin, ne plus pouvoir prendre soin... chez l'homme, je pense que c'est pareil, hein, mais je ne suis pas un homme. Hein. Mais par contre, je pense que chez les femmes, c'est quelque chose qui nous touche profondément et qui fait que nos métiers sont complètement désertés et plus du tout attractifs aussi.
Est-ce que vous échangez justement sur ces thématiques avec les hommes, sur l'égalité des salaires, sur, je ne sais pas, le harcèlement possible, sur le rapport de pouvoir. Est-ce que vous arrivez à échanger avec les hommes?
Oui. Ouais. Oui. Ben justement, quand on tient nos permanences à l'union locale à Capdenac, on en discute avec les salariés du privé, hein, qui viennent nous voir, les militants sur place. On en a un sur Capdenac qui est référent harcèlement sexuel dans sa boîte, voilà, au cas où il y ait justement ce genre de problématique. Donc oui, on en échange librement, sans problème.
Là-dessus, moi, je n'ai pas, au niveau du travail, vu qu'il y ait la possibilité d'instaurer quelque chose. Je ne dis pas que ça ne peut pas se faire, hein, mais je pense que ça doit venir aussi de la direction, parce que bon, l'employeur est toujours responsable, hein, on est toujours sur l'article 421-1 du Code du travail, qui oblige quand même l'employeur à préserver la santé, la sécurité de tous ses salariés. Et ça va jusque-là, quoi. Hein. Ce n'est pas uniquement éviter qu'il y ait un danger, mettre tous les outils à disposition. C'est aussi se préoccuper de l'état psychologique, on va dire, de tout son personnel, et hommes-femmes compris. Voilà. Donc, ça pourrait se mettre en place. Bon, nous, on ne le retrouve pas tellement. Je pense que si on avait des représentants du personnel des secteurs privés, probablement qu'on le retrouverait peut-être plus, plus flagrant. Parce que nous, nos grilles de salaire, c'est vrai que bon, hommes-femmes dans la fonction publique, bon, elles sont quand même de toute façon obligées d'être identiques. Ce qui peut changer, c'est effectivement les évolutions, parce qu'une formation, c'est pareil. Faire une formation, mais dans la fonction publique, eh bien, il faut arriver à l'intégrer dans sa journée de travail, dans sa semaine de travail, dans son mois de travail. Et c'est pas toujours facile, quoi. Voilà. Et donc, c'est des choix peut-être qui sont un peu contraints, de dire bon, mais tant pis, je le fais pas. Moi, j'ai entendu des collègues dire ben, j'aurais bien fait être soignante, j'aurais bien fait infirmière, j'aurais bien tenté plus, mais les enfants, ils sont à l'âge qu'ils ont, ça va m'obliger à partir loin. Là aussi, hein, il faut en parler aussi de la distance qui nous éloigne des endroits de formation. Ouais. L'accès à la formation. Et pour les femmes, dans la mesure où il y a pas la possibilité toujours qu'il y ait un relais par le deuxième parent, c'est difficile, quoi. Voilà. Donc l'accès à la formation, c'est aussi une chose que subissent, je pense, les femmes. Enfin, nous, dans nos métiers, principalement des femmes, donc c'est sûr qu'elles le subissent un petit peu plus. Mais même dans la formation syndicale, hein, il faut le voir aussi comme ça. Hein.
Est-ce que ça se féminise un petit peu dans les syndicats? Chez vous, par exemple?
Chez nous, oui. Oui, ouais. Ça se féminise. Les aides à domicile, justement, se sont syndiquées. Oui. Donc ça, c'est une grande avancée, parce que du coup, ça change un petit peu aussi l'image de la CGT sur le territoire. Il y a de plus en plus de femmes qui militent, qui sont présentes, qui prennent part aux actions. Donc c'est quand même très, très, très encourageant.
Oui, voilà. Nous, on le voit aussi dans... Bon, après, nous, on est majoritairement des femmes au niveau de notre établissement, et donc je parle du syndicat de notre établissement. Donc oui, il y a des femmes qui sont intégrées et qui se sont lancées, voilà, dans cette aventure qui est intéressante. Sur notre syndicat, oui, notre commission exécutive, oui, on est aussi des femmes, même au niveau du département d'ailleurs. C'est assez mixte dans les personnes qui les composent, hein.
De plus en plus.
Donc ça, en tout cas, on sent pas. On ne sent pas un empêchement par rapport à ça. Ça, de toute façon, c'est sûr et certain chez nous. On serait malhonnête, même si on passe au détecteur de mensonges, de dire que nous, on a des représentants au niveau départemental ou régional qui privilégient les postes. Enfin, nous, à ce niveau-là, on le ressent pas du tout. Mmh. Hein. C'est vraiment ouvert à tous. Au contraire, c'est encouragé. Parce que je pense que les hommes y reconnaissent aussi la qualité qu'ont les femmes, des fois, à pouvoir être aussi à s'organiser, à avoir des idées, tout ça. Non, il n'y a pas de différence.
Ouais. Pour revenir sur l'Aveyron, il y a 6 unions locales CGT, et sur les 6, il y en a 4 qui sont dirigées par des femmes. Donc oui. Ça, c'est bien.
Bravo. concernant du personnel suspendu, il y a aussi beaucoup de femmes.
Mais automatiquement, on revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport à ces postes, par qui ils sont occupés. Ils sont occupés principalement par des femmes, dans les métiers du soin, en tant que dans les infirmières aussi, dans les médecins aussi. Il y a de plus en plus de médecins femmes. Hein. Et effectivement, dans toute l'aide à la personne. Et c'est pour ça qu'on peut se permettre d'en parler aujourd'hui, de faire le lien avec les retraites. Il ne faut quand même pas oublier que jusqu'à ce jour, il y a encore des personnes suspendues qui n'ont pas de salaire. Parce que tout le monde est encore suspendu ou suspendable. La loi du 5 août n'est pas abrogée. Hein. Donc même si elle a enlevé le pass sanitaire, elle a enlevé certaines choses, les masques, le masque dans certains établissements et tout ça, n'oublions pas que depuis le 15 septembre, il y a toujours des 15 septembre 2021, il y a des gens qui depuis 18 mois n'ont pas de salaire. Et donc du coup, dans la fonction publique, entre autres, où nous n'avons pas le droit de travailler ailleurs, nous sommes toujours sur des personnes qui ne cotisent pas. Donc, elles auront des hachés dans leur carrière. Pendant un an et demi, il n'y aura pas de cotisation. Donc, c'est très grave ce qui arrive, parce que dans le privé, elles ont pu, pour certaines, au-delà de faire le deuil de ces métiers qu'elles avaient à cœur, se réorienter vers peut-être d'autres métiers, puisqu'ils en avaient la possibilité. Chez nous, on peut pas, on appartient à l'État, on ne peut pas aller travailler ailleurs. Voilà. Nous avons tous reçu sur notre établissement des refus catégoriques. Des personnes ont essayé de demander à travailler ailleurs, alors que nous avons la possibilité de changer de fonction publique aussi pendant quelques temps. Tout ça n'a pas été fait dans les règles, hein, je le dis et je l'affirme. Moi-même, j'ai demandé à quelles étaient les modalités pour les personnes qui s'opposeraient à cette injection de traitement. On n'a pas été reçu comme le prévoyait la loi du 5 août, parce qu'elle le prévoyait quand même tout ça, hein, la loi du 5 août. Donc les droits ont été bafoués. Hein. La crise sanitaire, elle a bon dos, à un moment, elle a bafoué les droits. Elle en a ouvert des nouveaux. Être suspendu sans salaire, ça n'a jamais existé. Ah ben si, voilà. Depuis la loi du 5 août, merci Monsieur Macron, ça existe. Donc c'était déjà le début un petit peu d'un recul par rapport au statut du fonctionnaire et un recul dans le droit du travail aussi. Donc ces personnes, elles sont sans salaire depuis, pour la plupart. Exercice du droit syndical, c'est pareil. Hein. On a aussi des femmes qui étaient syndiquées et qui, du coup, ont beaucoup eu de mal à faire quand même appliquer leur mission syndicale au sein des établissements concernés. Ça a impacté beaucoup de personnes, hein, dans la restauration aussi, parce qu'on parle des métiers qui sont encore... La restauration est revenue, mais dans les métiers de la restauration, il y a aussi beaucoup de femmes. Ces femmes-là, pendant quelques temps, pour celles qui n'ont pas... qui ont fait le choix, hein, qui quand même revient au droit fondamental qu'on a chacun de subir un traitement médical. Certains ont fait le choix de pas accepter ce traitement-là. Et bien, dans les métiers de la restauration, on voit bien aussi que des femmes ont perdu leur emploi par rapport à ça, quoi, hein. Donc ça a touché aussi des femmes, et il faut pas oublier ce que déjà ça, c'est à vie, hein, c'est terminé. Un an et demi, on les a perdus, hein. Donc, on est le dernier pays, la France. Hein. On est souvent pointé du doigt pour tous nos avantages. On va bientôt être pointé du doigt pour
nos régressions.
Pour nos régressions, effectivement. Donc, il ne faut pas les oublier, ces personnes. Voilà. Ouais. Donc là, elles sont plus que jamais à prendre en considération. Et moi, j'invite tout le monde à se battre pour ça, parce qu'on a quand même, des médecins aussi. On a des personnels qualifiés là-dedans. Et ça ne contribue pas, hein, à améliorer l'offre de soins sur notre territoire. Voilà, merci de m'avoir donné la parole pour ça.
Merci beaucoup en tout cas d'être venu nous parler des conditions de travail des femmes. Merci beaucoup, à très bientôt.
Merci à vous.
Merci. Prends garde, sous mon sang là.